Ben salut tout le monde, c'est Dan Bigra, je vous souhaite le bon début 2021. On va parler de bouffe, d'alimentation, parce que on s'entend que ces temps-ci, on peut juste acheter des produits essentiels. Alors, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous serez surpris de ce que les gens croient des fois, des gens que je connais moi, qui n'ont pas tout à fait bien évalué. On va en parler, puis on va essayer d'éclaircir ça un petit peu. Moi, j'ai des trucs pour magasiner. Je vais vous demander quels sont les vôtres. Est-ce que vous avez changé vos habitudes alimentaires? C'est tout dans la même question. Les sous-questions dans la question. On va parler aussi de retour dans les écoles. Donc, pour le 11 janvier, ça veut dire lundi dans une semaine. Moi, je sais pas. Personnellement, j'ai des gros doutes. Je suis pas un expert, hein, mais j'ai des gros doutes. Mais si on y retourne nos enfants, il me semble qu'il faudrait que ça soit dans des écoles ventilées. On avait déjà des problèmes avant la COVID avec les ventilations dans les écoles. Là, on sait qu'il y a des... c'est pas juste par les gouttelettes, ça se transmet de façon aérosol. Donc, il y a des gouttes qui restent en l'air pendant 2 minutes, 2 heures, on sait pas. Moi, ça m'inquiète. On va en parler avec la porte-parole de l'opposition libérale en matière d'éducation, entre autres, parce qu'évidemment, elle fait 18 affaires en même temps, Mme Marois-Risky. Et puis, d'abord, la première question que je vous pose, c'est quand pensez-vous qu'on va pouvoir reprendre des activités plus, je dirais, entre très gros guillemets, là, normales? Alors, pour en parler, je reçois le docteur Nima Machouf. Bonjour, docteur Machouf.
Bonjour Dan, comment ça va?
Ça va très très bien, vous?
Ça va reposer.
Ouais, vous avez réussi à vous reposer? Ah ben ça c'est fantastique. Un peu?
Ben oui, un peu.
J'ai dormi une heure cette semaine,
c'est-il? On a que ça à faire, non?
Oui, c'est ça. Hey, c'est épouvantable. Non, mais même moi, on a tous des petits suivis à faire, bon, cœur, poumon, tout ça. Il y a des périodes, tout ça. J'ai tout retenu mes examens, mes épaules, moi, à cause de mon accident. J'y vais pas parce que j'ai l'impression que je vais prendre la place de quelqu'un qui attend peut-être pour quelque chose de beaucoup plus grave. Fait que je vais sûrement pas engorger maintenant. Il y a un proverbe qui dit on va pas à l'urgence pour un ongle écarné, hein. Alors, je crois
surtout en cette période-ci, oui.
Ben oui, mais c'est en cette période-ci. En temps normal, j'y aurais été. J'aurais attendu dans le couloir comme tout le monde, puis c'est tout. Mais là, c'est parce que moi, j'ai un ami personnellement qui a un cancer, puis il a passé 3 jours sur une civière à l'hôpital malgré un cancer généralisé. Puis il n'est pas fâché après personne. Il voit bien que tout le personnel travaille comme des malades. Ça court dans tous les sens, ça n'arrête pas. Ils dorment moins ce qu'ils peuvent, dans un couloir, des fois. Alors, il se plaint pas, mais il est obligé d'endurer ça.
Ils sont obligés. Ouais. Souvent, c'est du personnel qui est épuisé, à qui on a coupé les vacances parce qu'on s'est dit la COVID va trop mal et vous ne pouvez pas prendre de vacances.
Oui.
On ne peut pas durer comme ça pendant longtemps.
Bon, il y en a qui ont pris leurs vacances quand même. Je veux, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, docteur Machouf, des gens qui ont pris des vacances. On peut pas se considérer. On a des taux d'infection. 31 décembre 2808 cas. 1er janvier 1986. Et puis le 2 janvier 2869 cas pour un total de 663 sur 3 jours, c'est ça. Et 121 nouveaux décès. Donc, ce n'est pas les voyageurs qui reviennent. Eux autres, ça va être plus tard. Donc, en ce moment, est-ce que vous croyez que la cause de cette hausse incroyable, qui est assez décourageante, je vais le dire honnêtement, c'est les parties de Noël? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Ça, c'est plutôt la santé publique qui pourrait nous dire où sont les éclosions. C'est 2500 cas de répétés depuis plus d'une semaine. Ils arrivent d'où? Est-ce que ce sont des éclosions dans les CHSLD? Est-ce que ce sont des éclosions dans des milieux de vie particuliers? Parce que les écoles sont fermées, les commerces sont fermés, les lieux de travail sont fermés. D'où viennent ces éclosions-là? Puis à ce moment-là, c'est eux qui vont pouvoir nous dire est-ce que c'est dans des parties de Noël, c'est des rassemblements de famille, c'est quoi qui a causé cette augmentation inattendue? Parce que normalement, dans une période où tout est fermé, on devrait avoir moins de contacts, donc moins de transmission, donc moins de cas. C'est sûr qu'on fait plus de tests, mais c'est pas juste le nombre de tests qui peut expliquer ce nombre accru de cas.
Non, ça, c'est un argument de Trump, d'ailleurs. On trouve des cas parce qu'on fait des tests. Oui, forcément. Des fois, tu as envie de lui parler comme un enfant d'école. Qu'est-ce que vous... Il y a plus en plus de gens qui croient que le mode de transmission par aérosol est en cause. Par aérosol, on s'entend, ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, qui est en dessous d'une roche, c'est que c'est pas juste par les gouttelettes quand on parle, mais c'est que on en fait traîner dans les airs, ça flotte, ça reste là 2 minutes, 2 heures, en fait, on ne sait pas. Et puis là, les enfants se promènent dedans, puis beaucoup de gens se promènent dedans, et que ça se répandrait comme ça. Est-ce que vous, est-ce que c'est démontré médicalement?
En fait, il y a de plus en plus d'experts qui croient que la transmission par aérosol est non seulement une mode de transmission probable, mais une mode de transmission importante. Depuis le début, ça fait un an qu'on est pris avec la COVID. Oui. Depuis le début, on s'est dit, bon, il faut se laver les mains, ça se transmet par gouttelette, donc il faut être à distance et il faut porter des masques et on respecte ces consignes-là. Du moins, au Québec, on voit qu'on respecte beaucoup ces consignes et pourtant, on n'arrive pas à bout de la maladie. Alors, au bout de l'infection et de la transmission, donc il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui font en sorte que cette chaîne de transmission, on n'arrive pas à la briser. Et les aérosols, c'est une des façons qui pourrait expliquer cette transmission qui nous échappe avec les moyens de prévention qu'on met en place.
Donc, c'est pas. Vous voudriez que la santé publique enquête très, très sérieusement, non seulement d'où viennent les éclosions, mais sur ce phénomène d'aérosol qui viendrait contrer beaucoup de mesures qu'on fait.
Le mode par aérosol a été reconnu au mois de juillet. Ça a été reconnu par l'OMS. Il y avait des spécialistes qui priaient, qui avaient écrit une lettre à l'OMS pour dire que c'est. Ce mode de transmission, on n'en parle pas, n'est pas assez reconnu. Et pourtant, c'est important. Et aujourd'hui, on a sorti une lettre aussi au Québec avec plus de 300 signatures de différentes personnes, des spécialistes de plusieurs domaines, parce qu'il faut aussi décloisonner la dynamique de transmission. C'est pas juste par des médecins ou des épidémiologistes ou du personnel de santé, des infirmières, etc., qui parlent maintenant de ce mode de transmission. Mais il y a des physiciens, il y a des personnes qui sont des spécialistes de la qualité de l'air, de la santé au travail, tout ça, qui disent qu'il faut qu'on prenne la transmission par aérosol au sérieux. Les aérosols, c'est comme des mini-gouttelettes, des petites gouttelettes.
Donc, mais tellement petites qu'elles peuvent flotter dans les airs.
Elles vont flotter dans l'air, un peu comme la fumée de cigarette.
Oui.
Alors, la fumée de cigarette, s'il y a quelqu'un qui fume, on est dans une salle, et il y a quelqu'un qui fume à 3 mètres de vous, vous allez la sentir, la fumée.
Oui, c'est ça.
Alors, si le virus, il se promène un peu comme une fumée de cigarette, ça veut dire qu'il va flotter dans l'air pendant un certain temps. Donc, juste garder 2 mètres de distance n'est pas suffisant pour éviter de contracter le virus, éviter de l'inhaler le virus. Donc, il faut faire d'autres moyens. Mais pour mettre en place d'autres moyens de prévention, il faut reconnaître que c'est un mode de transmission important. Et ça, le gouvernement fédéral l'a reconnu à l'automne. Le gouvernement québécois l'a reconnu du bout des lèvres, mais n'a mis aucune mesure en place pour contrer ce mode de transmission.
Oui, je m'excuse, Dr. Machouf, mais si on reconnaît, mais on ne fait rien, c'est comme si on ne reconnaissait pas, là, à un moment donné. Là.
Absolument, absolument. On ne le voit même pas dans les messages. Les messages, c'est encore lavons les mains, portons le masque. Oui, on se lave les mains, c'est bien. Il faut se laver les mains, il faut porter le masque, garder la distance. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant.
Est-ce que vous croyez qu'il y a une... Bon, je n'irai pas jusqu'au complotisme, parce que je suis un peu tanné d'en parler, là. Mais y a beaucoup de gens qui commencent à douter de ce qu'on nous dit. Forcément, je comprends que... En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que dans une crise, c'est important de dire la vérité, même si cette vérité est énervante, parce que moi, ce qui m'angoisse, c'est pas de savoir la vérité, c'est de pas la savoir. Alors, est-ce que vous croyez, comme par exemple au début, on voyait le docteur Arruda, on l'a vu en entrevue, par exemple, au Franc-Tireur, qui disait que le masque n'était pas nécessaire. Ce qu'on a déduit, c'est que simplement, il n'arrivait pas à trouver assez de masques pour son personnel, ce que je peux comprendre. On était mal préparés, malgré que lors de la dernière épidémie de H1N1, il y avait un consensus scientifique, pas un scientifique qui a dit, un consensus scientifique, qui disait il va y avoir une autre épidémie. Demandez-vous pas si, demandez-vous quand, parce que ça s'en vient. Et là, il me semble qu'on a tous manqué de préparation, là.
Absolument. Et docteur Arruda aurait dû dire au début, ça, c'est des masques que ça nous prend pour pouvoir prévenir l'infection, mais on n'en a pas suffisamment. Donc, débrouillons-nous pour en fabriquer à la maison, dans notre secteur industriel, en acheter de l'extérieur, peu importe, débrouillons-nous pour en avoir, mais pas dire que le masque était nocif. Il a même dit que le masque était nocif. Et ça, c'était, à mon avis, une erreur. Oui. Ça a été corrigé par la suite, mais c'était une erreur. Et je pense que pour la transmission par aérosol, c'est un peu de la même manière que le gouvernement est en train d'agir, parce que s'ils veulent prendre des mesures, mettre des mesures en place, il faut déployer des ressources, il faut débloquer de l'argent, et peut-être que ce n'est pas dans leur priorité. Mais pourtant...
Oui, mais c'est en plein ça que je pense.
La quand COVID est en train de nous coûter trop cher, là.
Oui, oui, mais quand on ne dit pas la vérité exacte, je comprends qu'il y a des raisons. Il n'a pas fait ça pour mal faire, mais je comprends qu'à un moment donné, les gens ne savent plus où donner de la tête. C'est beaucoup plus difficile, parce que c'est des mesures très difficiles à garder. On sent que les gens ont de la difficulté à se discipliner. Beaucoup le font, mais c'est difficile. Beaucoup de gens que je connais, qui sont des gens intelligents, essayent de... faire des petits passes droits, ben peut-être que tel produit est essentiel. Non, un rideau de douche, c'est pas essentiel, ça me tape ses nerfs. Mais des gens qui, parce qu'ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Alors, croyez-vous que si on avait dit les choses clairement dès le début et qu'on continuait, par exemple, avec la transmission aérosol, qu'on le disait clairement, c'est un danger, puis là, on travaille là-dessus, croyez-vous que ce serait plus facile de rallier la population puis à ce qui respecte les mesures?
À mon avis, oui. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Il faut expliquer aux gens pourquoi ça se transmet comme ça. Ça nous prend une explication. On fait beaucoup de choses. Les gens contribuent réellement, d'énormes efforts. Mais on voit que ça continue à augmenter. À un moment donné, on dit ben ça sert à rien de faire attention. Si ça continue à augmenter. Donc, si on explique aux gens, ouais, mais c'est comment que la transmission se fait. Maintenant, on a appris que la science nous a montré qu'on pensait que c'était par les objets, puis on a tous lavé nos bananes puis nos ananas au retour de l'épicerie. Ben maintenant, on fait plus ça parce que théoriquement, ça peut se transmettre sur la peau de l'ananas, mettons la COVID. Mais maintenant, on sait très bien que la transmission se fait plutôt par autre moyen. Donc, il faut l'expliquer à la population pour que les gens prennent les bonnes mesures. Même si on ne sait pas exactement quoi faire, mais les gens vont faire plus attention. Si les gens savent que le virus, il peut être flottant dans l'air, ben ils vont faire plus attention à tout rassemblement à l'intérieur.
Ah oui, automatiquement. Ils vont garder plus ce qu'on appelle la cellule familiale.
Oui.
Et parce qu'on ne va pas s'enfermer tout seul et nos enfants tout seuls, chacun dans leur chambre, etc. Ils vont garder la cellule familiale, mais ils vont beaucoup, beaucoup plus éviter de se croiser parce que là, on n'arrête pas de le dire depuis le début. Moins on fait attention, plus on va être mal pris plus tard, plus ça va être souffrant. Alors, on ne peut pas retarder la souffrance parce qu'on la multiplie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Retarder la souffrance parce qu'on la multiplie?
Non, retarder la souffrance, on fait moins attention. Puis après ça, à un moment donné, on s'aperçoit que là, il va falloir être confiné de façon extrêmement sévère. Et là, tous ceux qui travaillent en santé mentale disent que c'est très, très, très mauvais pour tout le monde. Et ça, c'est peut-être d'avoir trop attendu. Je vais vous garder avec moi.
Et n'oubliez pas qu'on est au mois de janvier. On a encore 4-5 mois où on ne peut pas tout ouvrir puis faire tout à l'extérieur. On est à l'intérieur encore à cause du froid. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir savoir quelles mesures prendre. On veut voir des gens, allons les voir à l'extérieur. Créons des environnements sains. Il faut vraiment faire attention.
Alors, je vais vous garder avec moi. Je vais reposer parce que vous savez, Dr Machouf, j'aime ça vous garder avec moi. Je vais redemander aux gens... quand vous pensez qu'on va pouvoir reprendre, et je le dis avec des très, très gros guillemets, une forme d'activité plus normale à la vitesse où on va là, vous pouvez téléphoner pour nous parler au Dr Machouf et moi au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850 et on reste avec le Dr Machouf de retour après la pause. Alors, je vous rappelle la question, quand croyez-vous qu'on va pouvoir reprendre un semblant d'activité normale. Je vous pose la question, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On est toujours avec le docteur Nima Machouf, qui est épidémiologiste. Ça fait trois fois que je me plante. Changer le cours à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Vous ne plantez pas quand vous dites votre métier, vous êtes capable de le dire, vous?
Oui, moi, je le dis maintenant très bien.
Vous avez pratiqué un peu. Okay. Écoutez, on parle de retourner les enfants à l'école. Est-ce qu'on délire, franchement, là?
Le ministre Robert a dit que le plan de la réouverture des écoles n'avait pas changé. Donc, le 11 janvier, on va ouvrir les écoles. À mon avis, avec cette nouvelle souche dont on vient de parler, qui se transmet plus facilement, qui se transmet par les enfants aussi, et sans porter attention à la question de l'aération ou changer des façons d'aller à l'école, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. Parce qu'on a vu la session passée, les professeurs, le personnel de santé en a arraché, mais les professeurs et le milieu scolaire également en ont arraché. Rendus au mois de novembre, au début novembre, ils étaient fatigués comme si, épuisés comme si c'était fin décembre. À force de laver les choses, surveiller les éléments, faire attention aux élèves, compter les personnes infectées, fermer et réouvrir les classes, c'était l'enfer.
Oui, puis quand ils se promènent dans les couloirs, les empêcher, non, pas lui, lui, tu peux y parler, non, va pas proche de lui. C'est un cauchemar pour les... Et ce qu'on remarque souvent, c'est les systèmes qu'on a, dans lesquels on a beaucoup coupé, qui sont déjà à bout de souffle, comme l'éducation et la santé. Moi, je vais donner un exemple. Mais quand on a coupé, puis c'est pas ce gouvernement-ci, c'est tous les gouvernements depuis 60 ans, ils sont déjà à bout de souffle. Alors, quand arrive une crise... sont pas équipés pour faire face, là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, s'ils veulent ouvrir les écoles, parce que je comprends que l'idée de garder les écoles ouvertes, c'était pour pouvoir permettre au secteur économique d'opérer, parce que les parents, s'ils veulent travailler, il faut qu'ils soient capables de prendre en charge ou de faire quelque chose avec leurs enfants. Donc, l'école était la meilleure option. Si on veut continuer à garder l'école ouverte, il faut s'occuper de la question de l'aération aussi. On peut pas ouvrir les écoles.
Est-ce que poser des filtres
plan pour ça?
Avez-vous des filtres chez vous, docteur Machouf?
Non, moi, on n'a pas de filtres chez nous.
Moi, j'en ai trois.
Ah oui?
Ouais, j'en ai un dans mon petit gym, là, dans une baraque à part. Là. Et puis, j'en ai un là-dedans, j'en ai deux dans ma maison qui filtrent l'air. Mais bon, j'ai toujours eu ça, c'est pas à cause de la COVID. Mm-hmm. Mais est-ce que vous croyez que, par exemple, ce genre de filtre-là peut être un petit peu plus puissant, étant donné qu'on parle d'une trentaine d'enfants dans une même classe? Ça pourrait aider, parce qu'on ne pourra pas rénover tous les systèmes d'aération.
Non.
C'est trop cher, on n'y arrivera pas en temps de crise en ce moment, c'est impossible. Mais au moins installer des filtreurs à air qui poussent un peu avec des filtres PCU, comme on dit. Est-ce que vous croyez que c'est possible?
Oui, il y a différentes mesures que le gouvernement peut mettre en place. Premièrement, il y a des gens dont la spécialité, c'est d'étudier et d'évaluer la qualité de l'air dans des milieux clos.
Oui.
Utiliser ces gens-là. Il y a des hygiénistes du travail, des ingénieurs qui s'occupent de la qualité de l'air. Mm-hmm. Donc, utiliser ces gens-là inspecter les différents lieux de travail ou les écoles pour voir quelle serait la mesure à mettre en place dans chaque endroit, mais de manière plus simple et surtout parce que ça nous prend quelque chose qui agit de manière rapide, parce que c'est maintenant qu'on veut éviter la transmission, on peut alléger les classes. Au lieu d'envoyer toute la cohorte d'enfants dans la classe un jour sur deux, mais les envoyer en classe la moitié des élèves à chaque fois, à chaque jour. Donc, alléger la présence en classe. Ou même si on ne rendait pas l'école obligatoire, les familles qui peuvent se permettre, tout le monde ne peut pas se permettre de faire l'école à domicile, mais les familles qui peuvent se permettre de faire ça, retireraient leurs enfants de la classe, feraient l'école à domicile, l'école à distance, et ceux qui ne peuvent pas faire l'école à distance iraient en classe. Donc déjà, peut-être 10-15% d'élèves de moins en classe permettrait de réduire la transmission dans les écoles. porter le masque, ouvrir les fenêtres, le temps d'installer un système, même portatif pour les endroits où c'est nécessaire, de mettre des filtres ou des purificateurs d'air dans des classes. Il y a plein de mesures qui peuvent être mises en place.
Qui peuvent être mises en place rapidement parce qu'elles sont temporaires. Mm-hmm. Mais en attendant, oui, ça prend ça. Il y a un cellulaire qui sonne, puis c'est pas le mien. Alors, est-ce que c'est le vôtre?
C'est le mien.
Ça me fait rire. Excusez-moi. C'est parce que généralement, quand je fais un show puis que ça sonne dans la classe, dans ma salle de spectacle, j'ai aucune pitié. Je vais torturer le pauvre qui a laissé sonner son téléphone. Je vais l'emmerder pendant tout le temps du spectacle. Puis c'est très amusant. Puis je le fais plus parce que la dernière fois, c'était le mien qui a sonné. J'ai eu la cave longtemps. Aérer les écoles, peut-être alléger les écoles aussi, parce que je comprends qu'il y a deux utilités à l'école en ce moment. La première, évidemment, on veut qu'ils complètent leur cursus scolaire le mieux possible dans un semblant de normalité qu'on pourrait leur donner, mais c'est surtout le premier but de les envoyer à l'école dans l'urgence maintenant, c'est pour essayer de libérer les parents qui puissent travailler, qui puissent faire quelque chose, parce que sans ça, ces parents ne s'en sortent pas. Ils ont nulle part où mettre leurs enfants.
Oui, tout à fait. Et surtout s'ils doivent faire du télétravail, c'est très, très difficile. Du télétravail avec des enfants qui tournent autour et qui, eux aussi, ont besoin d'attention. Parce que les enfants ne sont pas en congé. S'ils font l'école à domicile, il faut que les parents soient en mesure de devenir des mini-profs, si vous voulez, des personnes qui pourraient aider leurs enfants.
C'est pas tout le monde qui peut. J'ai essayé d'aider mon fils quand il était jeune. Vous savez, les maudites questions arithmétiques, là. Il y a un train qui part à telle heure, en telle direction, puis l'autre, ils vont se rencontrer à telle heure. Puis là, je dis, écoute, moi, je connais pas ça, mais je dis, s'il part à telle heure, il arrive combien de temps à l'avance? Il part là. Fait que mon fils, il était avec sa logique. Il a eu la bonne réponse, mais il a eu zéro parce qu'il n'a pas passé par la bonne méthode. On n'est pas tous équipés pour faire ça. Pour aider nos enfants. Parce que les nouvelles méthodes, on ne les connaît pas toutes.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis, si ce n'est pas obligatoire, les gens qui peuvent se permettre, qui ont les moyens de faire ça, pourraient retirer leurs enfants. Et déjà, ça va alléger la classe. C'est ce qu'ils ont fait en Ontario, entre autres.
Oui, parce que c'est tous des problèmes croisés. Il y en a un qui... Il y a un problème qui en crée un autre quelque part, puis et ça n'arrête pas. On va juste prendre un appel, Dr Machouf, tout de suite. Laurent, au bout du fil. Salut, Laurent.
Salut, M. Dan, et bonjour, docteur.
Bonjour.
Bon, moi, j'ai, comme je disais, j'ai dit au petit gars, parce qu'il y avait de l'air pressé, j'ai voulu être optimiste, j'ai dit 2 ans.
Oui, vous pensez que ça va prendre 2 ans avant de retrouver un semblant de normalité?
Oui, ben ça, c'est de façon optimiste, là, parce que je me dis, dans un sens, il n'y a plus rien qui va être pareil. Je regarde aller les gens, j'ai plein d'amis qui y en a qui sont inquiètes, il y en a qui ont très peur, il y en a qui s'en foutent totalement. Puis je me dis, le masque, comme le masque qu'on porte présentement quand on sort et qu'on va un peu partout faire nos commissions, le masque va devenir un accessoire de tous les jours, comme l'est la chemise, la cravate, le veston, pour beaucoup de gens.
Ou comme il l'est déjà dans plusieurs pays d'Asie.
Ah oui. C'est ça qui arrive. C'est que les gens, ils ont eu tellement peur. Comment je te dirais ça? C'est comme une grosse chaudière de peur qui est tombée sur la tête des gens d'un coup. Bang!
Oui.
Puis là, les gens sont coincés, là, puis là, qu'est-ce qui va arriver? J'ai une bru qui elle a peur, c'est l'enfer. Puis je la blâme pas, là, tu sais. Elle a un enfant, il y a mon fils qui travaille à la maison, chez lui. Tu sais, ils font du télétravail les deux. C'est pas évident. Puis la peur est toujours là, là. Tu sais, comme
ouais, je disais à un moment. Dans ce que vous décrivez, Laurent, vous parlez des gens qui, eux autres, s'en foutent. Moi, je crois que c'est du déni. Moi, je pense que tout le monde a peur. Il y a des gens qui, leur façon instinctive de répondre, c'est de faire semblant que ça n'existe pas parce que c'est trop anxiogène. Et à ce moment-là, Dr Machouf, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut s'occuper de nos enfants à la maison, pas seulement les aider à faire le devoir, mais si nous autres, on souffre d'anxiété comme ça, on peut s'imaginer nos enfants qui n'ont pas tous les moyens d'articuler cette anxiété-là.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment pas facile. La tâche de tout le monde est difficile. La tâche des familles, des profs, du personnel soignant, des travailleurs, du gouvernement, tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut tous, collectivement, qu'on mette l'épaule à la roue pour pouvoir s'en débarrasser. Sinon, plus ça dure, plus on va être épuisé même dans nos ressources pour pouvoir lutter contre ça. Nos ressources mentales, je veux dire.
Oui, ben c'est ça, c'est un combat de tous les jours. D'un autre côté, il y a notre santé physique qui nous porte à reconfiner parce qu'on n'a pas le choix. Mais à force de reconfiner, c'est notre santé mentale qui va en partir parce que l'anxiété, dans le temps, quand ça dure, ça commence à faire de plus en plus de dégâts. Donc, il faut être de plus en plus logique pour résister à ça. On n'y arrive pas tous, puis pas tout le temps, puis moi non plus, je m'inclus là-dedans. Docteur Machouf, je veux vraiment vous remercier. C'est toujours éclairant de vous parler. Ça va peut-être être la dernière fois d'ici l'été prochain, parce que moi, c'est ma dernière semaine, mais ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère qu'on se reparle très, très bientôt.
Merci beaucoup, Dan. Tout le plaisir est pour moi.
Au revoir. C'était Nima Machouf, qui était épidémiologiste. Je vais finir par le dire, je me tape ses nerfs aujourd'hui. Chargé de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Après la pause, on va parler justement des écoles, mais on va en parler, parce qu'il y a des décisions politiques qui se prennent. On va parler avec Marois Risky, qui est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole en matière d'éducation, entre autres, parce que vous connaissez ça, ces députés-là font 12 jobs en même temps, puis ils dorment bien. Ça m'impressionne beaucoup. De retour après la pause.